Et c'est le 34e épisode de Littéramour avec Sigrid Brinkmann. Bienvenue. Il y a 5 ans, j'ai rencontré pour la première fois le reporter, essayiste et romancier Christophe Boltanski à l'Université libre de Berlin. Nous avons parlé de ses romans La Cache et Le Guetteur et avons effleuré sa période de correspondant du quotidien Libération à Londres et à Jérusalem. Entre-temps, j'ai lu sa reconstitution de la vie de Jacob Béchir et la brutale histoire coloniale congolo-belge que Christophe Boltanski évoque dans son livre King Kasaï, écrit à l'occasion d'une visite nocturne du musée d'Afrique à Tervuren, près de Bruxelles. Le motif de notre rencontre du 1er novembre dans un café parisien était son livre « La fermière tuée par sa vache et autres faits divers », publié en mai 2024. Les 10 reportages du recueil ont été réalisés entre 2018 et 2023. J'ai demandé à Christophe Boltanski depuis quand il s'intéressait aux faits divers.
En fait, j'avais été contacté par une revue qui s'appelle Zadig et qui a été créée par un ancien directeur du Monde, Eric Fotorino, pour parler de la France, mais par des chemins de traverse. Il avait fait un peu la même chose à propos des États-Unis quelques années plus tôt. Il avait créé une revue qui s'appelait America pour essayer de comprendre l'Amérique de Trump. Et ça s'est arrêté avec le mandat de Trump. Et ça faisait appel à la fois à des journalistes et des écrivains. Donc c'est des longs récits, souvent littéraires, pour essayer d'appréhender cette France qu'on ne connaît pas bien, finalement. Moi, ça m'intéressait parce que je trouve que le fait divers est un moyen extraordinaire de rentrer dans des mondes qui, autrement, nous seraient fermés. Il y a un livre de Pierre Michon qui s'appelle « Les vies minuscules ». C'est plutôt des faits divers minuscules qui m'intéressent. C'est souvent des nouvelles qui se font à peine l'objet d'un article dans les journaux. Souvent, un simple entrefilet. Par exemple, cette histoire de la fermière tuée par sa vache, ça paraît presque une sorte de grotesque, surréaliste, m'a permis de rentrer vraiment dans la vie de cette éleveuse de vaches du Gers, dans le sud-ouest de la France, qui continuait à vivre à peu près comme dans les années 50 et qui avait développé une relation très passionnelle avec ses vaches et qui, le jour de sa retraite, a dû s'en séparer. Et un drame s'est produit à cette occasion, donc, que je raconte dans cet article. Mais c'est aussi un moyen de raconter justement cette vie rurale qui perdure derrière. Il y a ces immenses fermes avec des milliers de bovins qui sont complètement industrialisés, mais il y a encore ces petites exploitations. De moins en moins, elles sont en train de disparaître les unes après les autres, mais c'était aussi une façon de raconter cette vie-là. Voilà.
La fermière qui était tuée par sa vache, c'était une femme qui se dissociait un peu du village, qui n'était pas, si je me rappelle bien, très bien vue, parce qu'elle vivait seule, elle ne s'associait pas facilement, elle avait trop de chiens qui gênaient les autres.
Tout à fait. Elle était la dernière éleveuse de ce village. Il n'y en avait plus aucune autre personne qui élevait des vaches et des blondes d'Aquitaine. Donc c'est une race qui donne plutôt une bonne viande. Et elle vivait dans un village qui avait totalement changé par rapport à celui qu'elle avait connu quand elle était plus jeune, qui était devenu un village de néo-ruraux, de retraités, donc des gens qui n'ont pas particulièrement envie de cohabiter avec des vaches, avec l'odeur du fumier, avec tout ce qu'une exploitation peut générer. Et donc c'était effectivement une femme très seule. C'est une femme qui ne s'était pas mariée, qui n'avait pas eu d'enfant, et qui donc à sa mort n'avait pas d'héritier. Et ce qui était très très émouvant, c'est que donc la ferme avait été vendue par la mairie, mais ils avaient mis des mois pour retrouver les ayants droit, les héritiers. Et quand je suis rentré dans cette ferme, on venait tout juste de trouver quelqu'un qui avait accepté de signer l'acte de vente. Et donc la nouvelle propriétaire est rentrée en même temps que moi. Et on est rentré dans la vie de cette femme. Il y avait encore ses photos, il y avait encore ses vêtements. Et c'était extrêmement émouvant parce que ses photos racontaient la vie, sa vie. Elle racontait sa première communion, le premier jour où elle a voté. On la voit voter dans un bureau à la mairie. On la voit accompagnant ses parents à la foire agricole. Voilà. Donc toute cette vie qui ne subsistait qu'à l'état de trace, avec ces petites choses qui restaient d'elle.
Voyons donc, quels sont les indicateurs qui vous signalent que les quelques 4 ou 6 lignes dans un journal local ont le potentiel de révéler une histoire plus large ou un contexte qui en dit aussi quelque chose sur l'état de la société.
C'est pas très scientifique, c'est très intuitif, hein. Mais vous lisez une petite histoire, quelque chose qui peut faire quelques lignes dans un journal, et vous vous dites, oui, derrière ça, il y a une grande histoire. Par exemple, la revue m'avait demandé d'écrire un article sur ce qu'on a appelé les piqûres sauvages. Alors, je ne sais pas si cette rumeur a traversé les frontières, mais il y a 2 ans, en France, il y a eu une grande peur qui s'est emparée de la jeunesse, en particulier, comme quoi, dans les boîtes de nuit, les concerts, il y avait des inconnus qui piquaient des jeunes gens ou des jeunes filles, principalement. Alors, on disait que c'était en plus la drogue du violeur, donc pour les rendre à leur merci. Et donc, on m'avait demandé d'enquêter sur cette histoire. Et c'était très compliqué à traiter parce qu'il y avait eu, en l'espace de quelques semaines, à peu près, je crois, 1000 ou 2000 plaintes qui avaient été déposées à la police. Donc, à chaque fois qu'il y a une plainte, il y a une enquête. Et aucune de ces enquêtes, ça n'avait rien donné. On n'avait retrouvé aucune piqûre, aucune seringue, aucune substance dans le corps des supposées victimes. On n'avait procédé à aucune arrestation. Et donc, c'était de toute évidence une rumeur. Donc, c'est compliqué de raconter une rumeur. Et j'ai vu qu'il y avait eu une rumeur, il y en avait eu des centaines partout en France, mais une en particulier dans un village près de Carcassonne, et à l'occasion d'une fête de village. Alors, la fête de village, c'est tous les ans. Il y a à la fois un bal, les gens dansent, et une buvette, on boit beaucoup en général, et c'est une occasion pour les gens du village de se retrouver. Et à l'occasion de cette fête de village, une rumeur comme quoi il y avait eu des piqûres sauvages, les soupçons se sont immédiatement portés sur 2 jeunes gens qui venaient d'arriver, qui étaient les 2 seuls noirs de la fête, et qui n'étaient pas du village. Et ça s'est terminé quasiment en lynchage, pratiquement comme dans le sud des États-Unis. Vous voyez. Ils ont échappé vraiment de peu à la mort parce qu'une troisième personne est intervenue en leur faveur. Et je me suis dit, voilà, ça c'est intéressant parce que ça permet de raconter cette rumeur, mais ça permet de raconter aussi autre chose sur la réalité de la société française. Donc ces 2 victimes qui avaient été très très violemment agressées étaient du village d'à côté. C'était pas non plus des étrangers. Et les gens qui avaient participé à cette agression, c'était des notables. C'était l'adjoint au maire, c'était le fils de la directrice du comité des fêtes, qui était lui-même un joueur de rugby. C'est tous des joueurs de rugby, donc des hommes assez costauds. Donc c'était vraiment des notables du village, des personnes bien connues du village, et qui étaient convaincus à la fois par l'existence de cette rumeur et de leur bon droit. Voilà, ils avaient fait ça pour défendre les jeunes du village. Et donc c'était vraiment un nœud. Voilà, c'est ça un fait divers. C'est un nœud qui est à la confluence de différentes choses, une rumeur, un racisme, une grande peur, une fête qui tourne mal, beaucoup d'alcool. Et donc, en dépliant ce nœud, en le dénouant, on peut, comme ça, je pense, vraiment raconter, rentrer dans le secret de ce village, qui autrement ne serait pas révélé à moi.
Il y a une autre histoire pleine de rumeurs, une histoire, vous dites, de bruit et de fureur, de tumulte et de mutisme. C'est le récit, la rumeur des Roms ravisseurs, d'enfants qui se jouent en Seine-Saint-Denis. Et on finit la lecture et on se demande si cette rumeur qui culmine aussi dans une agression quasi pogromique,
tout à fait,
pourrait se répéter à n'importe quel moment, dans n'importe quelle région ou ville de France.
Oui, alors ça c'est une affaire dont les médias avaient un peu parlé, mais de façon dispersée. À chaque agression, ça avait donné lieu à des articles dans la presse, mais il n'y avait pas eu, à ma connaissance, de grandes enquêtes sur cette rumeur. Donc le point de départ de cette rumeur, c'est sur les réseaux sociaux, donc sur WhatsApp, sur Facebook, une rumeur comme quoi une camionnette blanche conduite par des Roms enlève des enfants pour des trafics d'organes ou pour alimenter des réseaux de pédophilie. Donc c'est une rumeur qui reprend à la fois un vieux mythe, presque un trope littéraire, de la bohémienne voleuse d'enfants. Vous savez, c'est dans Cervantes, c'est dans Victor Hugo. Donc c'est une image littéraire très ancienne qui ressurgit, mais de façon modernisée, avec l'image de la camionnette. Et là, on pense à une affaire terrible qui s'appelait l'affaire Dutroux en Belgique, qui mobilisait également une camionnette blanche. Et cette idée aussi d'un trafic d'organes. Voilà. Donc, en fait, c'est ça les rumeurs. Et ça m'a tout de suite fait penser à un livre formidable d'un sociologue qui s'appelle Edgar Morin, qui s'appelle La rumeur d'Orléans. Et là, on est à Orléans, donc, en 1969, pas si longtemps après la Seconde Guerre mondiale, et il y a une rumeur comme quoi les salons d'essayage des magasins de prêt-à-porter dans la ville sont des lieux où on enlève des jeunes filles. Et ces jeunes filles sont ensuite vendues dans des pays lointains, en Amérique du Sud, et qu'on ne les reverra jamais. Et évidemment, ça visait, cette rumeur, des magasins tenus par des commerçants juifs. Et ça avait entraîné des violences absolument incroyables. Et donc Edgar Morin avait enquêté sur cette rumeur, de façon très modeste. J'ai voulu faire un petit peu la même chose avec cette rumeur-ci, essayer de comprendre comment la rumeur monte, se déplace, se propage et ensuite retombe. De suivre le cycle de la rumeur.
Vous avez remarqué que les Roms qui étaient incriminés, qu'eux, ils ne portaient pas plainte, c'est-à-dire ils ne sont pas aptes de se défendre ou ils estiment que de toute façon, on ne va pas leur croire ou le procès va traîner, ça aboutit à rien. Donc cette rumeur, elle peut complètement disparaître.
Oui, c'est ce qui était le plus bouleversant dans toute cette histoire. C'est qu'il y a eu quand même, en l'espace d'une dizaine de jours, une quarantaine d'agressions contre des Roms. On parle de lynchage, de camionnettes incendiées, de tirs à balles réelles, de gens qui étaient tabassés dans la rue, partout dans différentes villes, essentiellement dans la banlieue de Paris, dans le nord de Paris. Et donc la police a dû intervenir quand même. Elle est intervenue à plusieurs reprises pour séparer les Roms agressés de leurs agresseurs. Il y a eu après des procès de ces agresseurs. À peu près une vingtaine de personnes ont comparu devant des tribunaux pour être jugées. Et ce qui était absolument incroyable, aucun Rom n'avait porté plainte. Aucun. Parce qu'ils avaient peur de la police en grande partie. Aucun Rom n'était présent au procès. Il y avait une association qui parlait au nom des Roms qui étaient présentes, mais les gens qui avaient été agressés n'étaient pas là physiquement au moment des procès. Et pire encore, quand vous êtes journaliste, vous enquêtez sur une affaire comme celle-là, vous allez voir les avocats et vous avez accès aux dossiers d'instruction. Donc il y a ce qu'on appelle des procès-verbaux qui sont établis par les policiers. Les policiers donc rapportaient les faits, mais n'avaient même pas cru utile de prendre le nom des victimes. Donc vous aviez l'agression qui était décrite en détail, vous aviez le nom de l'agresseur, pas celui de la victime. On parle d'une population qui est tellement invisibilisée, tellement ostracisée, que les policiers n'ont même pas jugé nécessaire, ce qu'ils font en toutes circonstances, de prendre, c'est la première chose qu'ils font d'habitude, de prendre le nom de la victime et de faire figurer ce nom dans le procès-verbal.
Restons encore un peu à la campagne, puisque vous avez visité Conques-sur-Orbiel, où il y avait 143 enfants, moins de 11 ans, qui présentent dans leur urine un taux d'arsenic supérieur à la norme. Je me suis dit que finalement, vu que rien ne s'est produit après, que ça n'a pas eu de conséquences apparemment, que c'est une région qu'on devait dépeupler parce que c'est tellement dangereux de rester là-bas et on ne se soucie pas vraiment de la santé des résidents. Non ?
En fait, d'abord les gens oublient très vite. C'est incroyable la capacité d'oubli parce que dans cette vallée qui est très jolie, c'est une très jolie vallée, on est près du pays Qatar, pas très loin de Carcassonne encore une fois. Et dans cette vallée se trouvait effectivement la première mine d'or de France et je crois même la première mine d'or d'Europe. Ce que j'ai appris, c'est que quand on trouve de l'or, on trouve bien d'autres choses. Et on trouve beaucoup, beaucoup plus d'arsenic. Et donc, à un moment donné, cette mine était aussi une des plus grandes mines au monde d'arsenic. Elle a même exporté de l'arsenic aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam pour la fabrication d'armes, etc. Et donc, cette mine a produit des centaines de tonnes de déchets, des véritables montagnes de déchets qui ont été laissés là par les exploitants successifs de cette mine qui a ensuite a fermé. Et puis, on a oublié tout cela. Les ouvriers continuent à habiter, qui sont maintenant des vieilles personnes, retraitées, continuent à habiter dans cette vallée. Souvent, sont malades parce que travailler dans des conditions comme celle-là, évidemment, c'était très dangereux pour leur santé, mais gardaient en même temps un lien affectif très fort à l'égard de cette mine. Et puis, d'autres gens sont arrivés. Ils ont acheté des maisons. Ils sont endettés et donc personne n'avait vraiment envie que l'on parle de cela parce que parler de cela c'est faire peur aux gens, c'est que les biens immobiliers se dévaluent et puis il y a eu ces inondations en 2019, des inondations très importantes il y a eu presque une sorte de tsunami, de vague qui a déverlé dans cette vallée et entraînant tous ces déchets avec elle et un an après les parents se sont aperçus, à l'occasion, en faisant des examens, que leurs enfants avaient des taux d'arsenic dans le sang très, très supérieurs à la norme autorisée. Donc la peur a repris à ce moment-là, avec évidemment une gêne des pouvoirs publics, parce que reconnaître qu'il y a un problème sanitaire, c'était pour les pouvoirs publics l'obligation de faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est presque impossible. Il faudrait des sommes absolument astronomiques pour pouvoir retirer ces déchets, les traiter dans des conditions correctes, peut-être indemniser les victimes, déplacer des populations. Donc, les pouvoirs publics ont fait la même chose que tout le monde. Ils ont fait l'autruche. Ils ont eux aussi fait comme s'il ne se passait rien. Et donc, voilà, quand vous enquêtez sur cette histoire-là, vous essayez de faire parler des gens qui n'ont pas envie de parler, mais en même temps... C'est vraiment l'éléphant dans la salle. Là, c'est une véritable montagne qui est au milieu de cette vallée et qu'on ne peut pas ignorer.
Je trouve étonnant comment vous réussirez à faire des enquêtes et à faire des recherches à partir de rien, pratiquement. Il y a là une enquête sur les branches du parti fasciste, les loups gris, en France. Et la seule trace, c'était une vidéo postée par un jeune homme sur Instagram, un homme qui se dit être le commando turc. Depuis des décennies en Allemagne, les loups gris sont connus. On les compte, c'est un nombre de 12 500 à peu près. Ils sont interdits qu'en partie en Autriche depuis 5 ans. En Allemagne, ce sont les groupes antifascistes qui réclament que les loups gris soient, le parti des loups gris soit interdit en Allemagne. Mais ça ne se passe pas, on en reste aux appels des parlementaires de suivre leurs activités, mais ils ne vont pas les interdire. Et là, oui, vous avez vu que les loups gris en France sont un fantôme. Il n'y avait pas d'adresse. Et comment est-ce que vous avez réussi à finalement trouver cet endroit, ce lieu à Paris, Pantin, cette agence de voyage qui qui n'était pas une.
Oui, c'était très très difficile de faire cette enquête parce que en fait, il y avait eu cette année-là, vous savez, il y avait la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et on est dans la banlieue de Lyon, dans une ville qui s'appelle Dessine, où se trouve une très forte communauté arménienne, qui sont des réfugiés pour la plupart du génocide de 1915. Ils avaient décidé de faire une manifestation en solidarité avec l'Arménie. Et à cette occasion, donc, sont arrivés des centaines de manifestants turcs qui faisaient tous justement ce fameux signe des loups gris, vous savez, qui imitent à la fois les oreilles d'un loup et le museau d'un loup. Et à la suite de cette manifestation, le ministère de l'Intérieur avait décidé d'interdire les loups gris. Mais comment peut-on interdire une association qui n'existe pas, qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de statut, qui n'a pas de leader reconnu? Et donc, j'avais lu un livre très intéressant sur les loups, en fait, d'un anthropologue qui s'appelle Morisot, et qui racontait que les loups ont ceci de particulier, que quand ils marchent en meute, il y a le chef de la meute qui marche devant, et que les autres loups marchent toujours dans les pas du chef de la meute, qui a une seule empreinte pour toute la meute. Ça m'a donné l'idée d'essayer de trouver quelqu'un que je pourrais suivre. Et en le suivant, peut-être que j'allais pouvoir reconstituer l'ensemble du groupe qui se trouve derrière lui. Lors de cette manifestation, un homme avait été identifié, a été jugé devant un tribunal, et il s'appelait Ahmed Setine. Et donc, je me suis mis dans les pas de cet homme et je l'ai essayé de le suivre jusqu'au bout. Et effectivement, en le suivant, c'était fascinant parce qu'il y avait plein de gens qui le croisaient. À un moment donné, il était même candidat pour devenir député. Il était membre d'un parti politique. On rencontrait également l'ambassade de Turquie. On rencontrait un lieu qui est lié au ministère des cultes de Turc dans cette même ville de Setine. Enfin, voilà, c'était une sorte de fil, comme un fil rouge, qui permettait effectivement, en le déroulant, de raconter beaucoup de choses.
Pour faire les recherches, pour faire votre travail, il vous faut beaucoup de ténacité, avoir les intuitions aussi, et savoir que vous faites confiance à vos intuitions, vous les suivez. Quand est-ce que vous avez développé ces qualités qui sont bien nécessaires pour pouvoir écrire ces récits?
Je ne sais pas trop. Ma grand-mère était romancière. Et je pense qu'elle a joué un rôle dans mon envie d'écrire des livres. Elle écrivait toujours en voiture ou le matin tôt quand elle se réveillait, parce qu'elle était atteinte de poliomyélite, donc elle passait beaucoup de temps dans sa voiture. Donc elle écrivait sur ses genoux comme ça. Et elle a écrit à la fois des romans qui ressemblent un peu à du Marguerite Duras, comme ça, et aussi des enquêtes très sociologiques à partir de faits divers. Et donc je pense que ce goût pour les faits divers, il me vient aussi d'elle. Elle avait fait deux livres très beaux sur une histoire absolument dramatique de deux jeunes filles qui étaient filles de harkis. Vous savez, les harkis, ce sont les Algériens qui ont combattu avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui étaient en conflit violent avec leur père, qui avait fugué et n'avait pas d'argent, et donc avait décidé de se faire prendre en autostop par un automobiliste pour le voler. Et elles avaient tué l'automobiliste. Et donc ma grand-mère avait reconstitué l'histoire de ces deux jeunes filles, et l'une d'entre elles en particulier, ce qui était aussi une façon de raconter une histoire d'immigration, de ces enfants d'harkis dont on parlait peu, et elle était devenue très amie avec cette jeune femme qu'elle avait pu faire sortir de prison finalement, et voilà. Donc je pense que c'est aussi grâce à elle que je me suis intéressé à ça.
En lisant ces récits ou vos livres, c'est un but qui n'est pas explicite, mais je crois qu'il s'agit aussi pour vous de rendre justice, de révéler des vérités ou des aspects de la réalité qui sont un peu cachés, disons.
Oui. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à écrire parce qu'il y a quelque chose qui leur semble caché. Il y a une énigme, il y a une faille, il y a quelque chose qu'ils ont envie de mieux comprendre. Donc je pense qu'au départ de l'écriture, il y a souvent quand même une énigme, quelque chose qui vous titille, quelque chose qui vous travaille. Je crois que c'est Claude Simon qui disait « Il faut travailler sur ce qui vous travaille ». Et même chose, je pense que je suis devenu journaliste avec l'idée, certainement illusoire, mais qu'en décrivant des choses, en les exposant, on pouvait peut-être contribuer à faire en sorte que des choses changent. Je ne suis plus aussi convaincu de cela aujourd'hui, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru à cela, qu'il suffisait finalement de décrire des situations pour contribuer à faire en sorte que ces choses changent.
Oui, pour éclaircir et pour, comme je l'ai dit, pour rendre justice et pour contribuer, pour partager aussi. Le livre que vous avez écrit sur Jacob Béchiri, les vies de Jacob, ça c'est un exemple merveilleux. Je trouve une recherche vraiment extraordinaire où, oui, vous êtes parti de rien. Mais je crois que vous avez fait le plus grand cadeau à ses enfants.
J'espère. On est devenu très proche avec ses enfants. Mais c'est vrai que je trouve ça très émouvant, en fait, toujours de tomber sur des traces de quelqu'un qui n'est plus, hein, en général, et de vous dire, voilà, tout ce qui subsiste de cette personne, c'est ça. C'est des petites choses, des photos, des photos d'identité, des lettres, trois fois rien. Et pour moi, essayer de reconstituer la vie de quelqu'un à partir de ces éléments très fragmentaires, c'est quelque chose qui me fascine. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est au cœur de mon envie d'écrire. D'abord, ce qui me fascine, c'est le fait qu'on laisse tous des traces, mais qu'en même temps, on ne laisse que des traces. Donc, que ce qui reste est toujours très fugace, très parcellaire, très morcelé, très insaisissable. Et qu'en même temps, ces choses-là, qui sont insaisissables, permettent, si on les additionne, de raconter la vie de quelqu'un.
C'était la 34e édition de Literamour. Je m'appelle Sigurd Brinkmann et j'espère vous retrouver quand je vais publier le prochain épisode. Il sera consacré à Deborah Lévy-Bertera, auteure et spécialiste de la littérature comparée. À la prochaine et bien à vous.